Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix aujourd'hui avec un trio majoritairement féminin. On commence parce qu'il faut toujours le présenter en premier. Et je n'ose même plus l'appeler le président de l'Institut de la Parole, tant c'est insuffisant pour lui. L'empereur de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre Propos d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, Imperator Biljerum, nous vous saluons.
Mais mon cher Philippe, c'est vous qui dites que c'est insuffisant. Vous me faites vraiment passer pour insuffisant absolu. Alors que la vanité est le défaut que je déteste le plus.
Bon, on vous rappellera juste donc président. Comme il est empereur et qu'elle est présidente, on va l'appeler l'impératrice et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires, Anne Mazoyer. Bonsoir, impératrice.
Bonsoir, Philippe.
Ça vous
mais
va ?
Quelle
bien dans le micro.
Présentation incroyable.
Ah bah,
incroyable.
Impératrice, ça vous rappelle pas un film d'Ernest Marischka avec Romy Schneider ?
Bah, oui. Absolument.
Ah, ça nous faisait rêver quand on était gamin.
Mais vous voyez, la différence, c'est qu'elle est allemande et moi, je suis franco-polonaise.
Ah oui.
On est toutes les deux de l'Est, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Pas tout. Ah, Philippe Bilger va nous parler de Romy Schneider. Je pense qu'on va entendre de belles choses.
Mais j'allais dire que notre invité peut tenir la comparaison sur un certain plan.
Bon, dans deux minutes, il m'envoie un texto en me demandant votre 06. Je vous préviens tout de suite.
Ça commence bien cette émission. Cher Philippe, l'autre Philippe, merci infiniment. Merci beaucoup.
Et vous la connaissez, c'est l'impératrice, consultante dans le domaine du handicap visuel et chroniqueuse Sud Radio. Bonsoir Caroline Pilastre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
C'est vraiment un début impérial.
Ah, c'est merveilleux.
Nos deux débats du jour à 17h30, un sujet lourd. La nouvelle campagne des Restos du Cœur vient de commencer et les gens sont de plus en plus nombreux à y aller et malheureusement, de plus en plus de gens qui travaillent sont obligés d'aller au Restaurant du Cœur. D'où notre premier débat. Le Resto du Cœur, avez-vous peur d'y avoir recours un jour ? Pour le moment, vous êtes 61,1% à dire oui sur Twitter.
C'est phénoménal.
À 18h30, c'est énorme. Oui. Près des deux tiers. Notre grand débat, faut-il une troisième dose de vaccin ? Puisque c'est une proposition des professeurs Delfraissy et Fischer. On aura avec nous le professeur Megarban pour en parler. Voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Vous avez l'air en pleine forme, les vraies voix.
Mais sûr. Comment ?
Autant qu'on peut, oui.
Alors, aujourd'hui, je vais commencer, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un peu les deux à la fois, c'est une info qui vient de tomber. C'était un de nos débats des vraies voix hier, suite à ce qui s'est passé à Lyon, où Dimitri Payet a reçu une bouteille sur l'arrière du crâne jetée par ce qu'il faut bien appeler un abruti. Et il est au tribunal en comparution immédiate, et 6 mois de prison ferme ont été requis contre l'auteur du jet de bouteille, ainsi que 5 ans d'interdiction de stade. Alors 6 mois de prison ferme, moi ça me choque absolument pas. Par contre, je trouve que 5 ans d'interdiction de stade, c'est beaucoup trop peu. Je vais donner la parole aux vraies voix, Philippe Bilger.
6 mois d'emprisonnement, c'est vraiment une peine exemplaire et il y a des imbéciles et des méchants qu'il faut dissuader radicalement. Je vous trouve un peu sévère, mon cher Philippe, même si hier je parlais de radiation à vie sans faire référence naturellement au processus judiciaire. Je trouve que 5 ans d'interdiction, c'est déjà pas mal. Je veux dire, on aurait pu vouloir davantage, mais tout de même, pour une fois qu'on a une autorité qui fait un peu preuve de lucidité et de sévérité, je ne verserai pas dans votre maximalisme.
Anne Mazoyer.
Je pense que ça va dans le sens d'un renforcement de l'autorité vis-à-vis de certaines dérives, de certaines incivilités, et qui donne lieu après à une certaine forme d'insécurité. Et je pense que comme c'est un des grands sujets du moment, pas seulement de ce soir, mais d'un des grands sujets de la campagne présidentielle et probablement du moment, je pense que ça fait partie donc des différentes étapes vers lesquelles nous allons nous orienter, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Mais moi, ça ne me gêne pas, je trouve ça très bien, hein.
Caroline Pilastre.
Moi aussi, je trouve que c'est une bonne peine, si je puis dire, si ça pouvait servir de modèle.
Alors,
c'est
les réquisitions, hein, c'est pas encore tombé. Là, c'est les réquisitions sont tombées il y a une demi-heure.
Oui,
une
mais demi-heure, quoi qu'il d'heure. Arrive, oui. Cette personne va être condamnée. Hein.
Ah, théoriquement, oui, parce que là, en plus, il y a des preuves, il y a des vidéos, etc. Donc, ça va être dur de plaider que c'est
mais
pas
d'ailleurs,
une bouteille d'eau lancée à 30 mètres, c'est un véritable projectile.
Caroline.
C'est une arme, hein. Oui.
D'ailleurs, il l'admet puisqu'il s'est excusé.
Exactement, surtout qu'il faut rappeler que ça n'est pas un hooligan, il n'a pas de casier, c'est un supporter. Mais évidemment, tu le disais, c'est un abruti, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pas normal ce qui se passe dans le milieu du foot, au niveau de la dangerosité et de l'insécurité, parce qu'en dehors justement de certains qui se permettent tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'ils ne sont pas contents que leur équipe n'est pas marquée ou qu'ils n'aiment pas un joueur, il faut aussi rappeler les histoires de racisme. Hein. Combien il y a de joueurs qui sont hués où on est en train... de faire des espèces de chants de singes, de lancer des bananes même en Italie, en Angleterre. Enfin, je trouve ça quand même sidérant ce qui peut se passer. Hein. C'est au-delà de ça, c'est un manque de savoir-vivre. Et oui, c'est complètement bestial, quoi.
C'est de la bêtise crasse.
C'est stupide.
Comme on a un éminent au magistrat avec nous, quand on passe en comparution immédiate, Philippe Bilger, qui a des réquisitions, en général, est-ce que le juge, il est dans les réquisitions plutôt plus sévère ou plutôt moins sévère ? La parole est à l'avocat général.
Vous me faites retomber en jeunesse il y a tellement d'années où je ne suis pas allé en comparution immédiate. En général, lorsqu'il y a un ministère public intelligent, et ça arrive, eh bien, il est évident que le tribunal a tendance à faire fond sur les réquisitions. Alors, peut-être que là, le tribunal va hésiter en se demandant si la peine ne renvoie pas à une sorte de justice pour l'exemple ou bien si ça correspond véritablement à la gravité du comportement.
Qu'est-ce que vous en pensez, les vraies voix ?
Moi, je dirais que oui, il y a une volonté d'exemplarité dans cette histoire. C'est
parce
certain.
Que là, ça fait beaucoup depuis le début de la saison. C'était en septembre.
Et c'est pas que dans le foot, je dirais. C'est pas que dans le sport. D'une manière générale, les gens sont devenus plus violents. Ils sont plus désinvoltes dans la façon dont ils gèrent leur comportement physique. Et je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. Donc oui, je pense qu'il y a une question d'exemplarité qui joue.
Vous pensez que ça va jouer le fait de donner une sanction exemplaire, comme depuis le début de la saison, le foot, je vais faire du Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube dans le football français ?
Auprès de certains, comme toujours. Les autres n'écouteront pas, et à leurs risques et périls, mais j'espère que la justice, oui, fera preuve d'impunité contre ces gens. Et c'est vrai, je vous rejoins complètement, Anne. Là, on a l'impression que, sorti entre guillemets, de la crise de la Covid, ce qui n'est pas totalement le cas, les gens sont de plus en plus cinglés. Je vais vous parler trivialement. Oui. Il y a, en dehors de la violence de certains dans les cités, mais on a l'impression qu'on ne peut plus débattre sans en arriver aux mains ou aux insultes. Il y a vraiment une société qui est clivante, moi j'en ai parlé plusieurs fois à ce micro, qui m'effraie réellement. On ne peut plus dialoguer tranquillement. Le débat d'idées, c'est quand même ce qui est le plus important. Et puis en France, on adore la discussion.
Mais vous voyez, Caroline, même on peut débattre de manière moins tranquille, c'est-à-dire de manière passionnée. Mais moi, je suis très interpellée également, et vous avez également raison sur ce point-là, de voir combien les politiques, regardez ce qui s'est passé avec Jean-Christophe Lafarge.
Lagarde,
qui s'est permis de dire ce qu'il a dit l'autre jour.
Sur la balle dans la tête, ce que passe sur les traces d'humour.
C'est trop, ça prend des proportions qui sont vraiment aujourd'hui et qui, du reste, alimentent ce débat sur l'insécurité. Parce que finalement, quand vous vous permettez de telles injonctions, ça donne des idées à des gens qui ne sont pas très équilibrés.
Oui.
Ce qui est le cas pour beaucoup, hein, quand même. Et je pense que c'est vraiment pas normal.
Eh bien, on va suivre ce verdict qui va tomber évidemment dans la soirée, comme c'est de la comparution immédiate. Les vraies voix. À 17h30, notre premier grand débat. Resto du cœur, avez-vous peur d'y avoir recours un jour ? Eh bien, ça augmente. Vous êtes maintenant 63% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants pour les tours de table de l'actualité de nos vraies voix du jour.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Anne Mazoyer et Caroline Pilastre, et c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
C'est un mot qu'on dirait.
Ah ben oui, là Philippe Bilger, vu votre tour de table, la chanson de Garou, Belle, s'impose, puisque vous voulez parler du top modèle Véronica Rajec.
Oui, mon cher Philippe, mais si vous le permettez, je voudrais y associer un autre point de vue tout à l'heure, en toute rapidité, je vous rassure. Mais, et même le sujet que j'ai choisi sur Véronica Rajec est beaucoup moins superficiel et léger qu'il peut apparaître. C'est un mannequin de 25 ans, slovaque, une très belle femme, objectivement, et qui est banni parfois des réseaux sociaux et en fait l'objet de menaces et vit parfois une vie, entendons-nous bien, ça n'est pas l'enfer, mais c'est une vie pour elle assez difficile parce que personne ne veut croire que ses atouts, ses appâts, son esthétique, son naturel. Et donc, ça renvoie un peu à notre vision d'aujourd'hui qui est tellement complotiste, y compris dans ce domaine, qu'aucune belle femme ne peut se prévaloir de sa beauté sans devoir justifier qu'elle ne l'a pas travaillée ni exploitée. Ça, c'est tout à fait important aujourd'hui. Et le deuxième point, beaucoup plus préoccupant, je pense que Caroline a lu quelque chose comme moi là-dessus. J'ai été effaré il y a deux jours en lisant un inventaire de tout ce que les femmes mères M-A-I-R-E-S, reçoivent de la part de leurs administrés.
Bien sûr.
C'est un véritable scandale, une totale putridité. Donc, malgré les apparences, Véronique Rajec et ces horreurs-là, eh bien, ça tourne dans un même monde.
Alors justement, je ne connaissais pas Véronique Rajec avant votre tour
moi
de table.
Non plus.
Donc, je suis allé voir, et c'est vrai qu'elle a une plastique, on va dire, fondamentalement superbe.
Elle est magnifique, cette fille.
C'est un peu le genre Adriana Carambeu, dans un style, les Slovaques aussi, dans un style un peu différent. Et vous trouvez pas ça hallucinant qu'on vous accuse que ce soit pas des photos naturelles, que ce soit retouché, que vous avez fait de la chirurgie esthétique, ceci, cela?
Bah écoutez, c'est un phénomène pour certaines raisons que je connais très très bien, parce que déjà, il y a 20 ans, quand vous alliez à Los Angeles, on vous demandait quel était le nom de votre chirurgien esthétique. Et on vous disait, mais c'est pas possible que vous ayez tel ou tel plastique, peu importe.
Naturellement, quoi.
Parce que c'est trop naturel, et donnez-moi vite l'adresse. Et c'était pas que dans des milieux de cinéma, c'était dans d'autres milieux, y compris économiques, où c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Parce que finalement, ce que vous dites, Philippe, c'est se dire... Alors, effectivement, elle doit être stigmatisée, donc elle, dans son métier, c'est encore plus compliqué, ouais. Ça lui rend la vie difficile. Mais je pense que c'est le phénomène des apparences. C'est que nous vivons dans un monde d'apparences et dans un monde qui cultive les apparences. Et aujourd'hui, ces apparences sont en train de se retourner contre nous. Ce qui n'est pas le cas dans cette belle émission... qui prône l'authenticité, voyez-vous.
Oui, vous savez, quand vous voyez la plastique de Philippe Bilger, c'est la perfection au masculin.
Non,
vous voyez,
arrêtez.
C'est comme la Margiel, c'est extraordinaire.
Philippe, non, mais arrêtez, Philippe, franchement.
Vous savez qu'il est déchaîné, hein. Déchaîné.
C'est Mister Monde de Sud Radio, Monsieur Bilger.
D'autant plus que Philippe David, c'est que le seul qui aurait été digne de Véronique Rajec, c'est lui qui passe tous les soirs à CNews.
Non, pas tous les soirs. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Pilastre? La fille est absolument magnifique.
Elle est superbe.
Ah oui. Et on dit, c'est pas vrai, c'est du Photoshop, c'est de la chirurgie esthétique. C'est fou, ce monde dans lequel on vit.
Alors moi, je vais prendre le problème, entre guillemets, sous deux angles. Parce qu'il ne faut pas se plaindre d'être une jolie fille dans un monde d'image. Il faut arrêter, hein. Il y a largement pire dans la vie que d'être belle. Je pense que l'inverse est plus difficile au quotidien, surtout dans des milieux de communication et d'apparence. Elle est mannequin, donc de toute manière, ça ne veut pas dire que ce soit une fille stupide, hein, loin de là, comme les Miss France. Mais c'est un atout majeur. Si elle avait été moche, énorme, avec des boutons sur le visage, elle n'aurait pas fait la carrière qu'elle est en train de faire. Donc arrêtons un peu aussi l'hypocrisie. Maintenant, il y a toujours des frustrés et des aigris.
Elle n'aurait pas été mannequin.
Bah, oui, déjà, voilà.
Mais elle aurait fait autre chose.
Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Ça peut être une fille intellectuellement largement au point, comme les Adriana Carambeu ou les filles de ma génération, les Laetitia Casta, les Claudia Schiffer, Cindy Crawford, qui étaient vraiment mises en avant il y a 15 ans de ça. C'était même à la place des actrices qu'on les voyait. Mais évidemment qu'à partir du moment où vous avez une exposition, quelle qu'elle soit, vous allez créer, cultiver des jalousies. Il y aura des frustrés vous diront, en vous regardant sous tous les angles, de toute manière, tu es refaite des pieds à la tête, c'est pas possible que tu sois naturelle. Vous savez, j'en reviens au concours, par exemple, Miss France. On peut en penser ce qu'on veut, que c'est obsolète ou qu'on apprécie. Quoi qu'il en soit, ça fait 10 millions de téléspectateurs chaque année. Ce sont quand même des beaux tableaux. Ces filles sont loin d'être des dindins, parce que souvent, en fait, on veut les ramener à des pauvres petites choses qui n'auraient pas de cerveau qui fonctionne. Quand vous voyez les profils, souvent, elles font des études.
Ah oui.
ces filles, donc elles sont quand même complètes, hein, voilà, intellectuellement, ce sont des jolies filles. C'est un des seuls concours en France où on demande aux filles d'être naturelles, hein, par rapport aux pays d'Amérique du Sud.
Absolument.
Voilà, où là, elles sont refaites. Bon, c'est comme ça, ce sont les règlements, moi je ne juge pas. Mais bon, ça fait partie, malheureusement, du revers de la médaille, et vous aurez toujours des anonymes qui, comme pour les invectives, les insultes, les menaces de mort, seront là pour vous rappeler que vous êtes trop belle pour exister.
On revient toujours au péché originel des réseaux sociaux où n'importe qui peut balancer tout et n'importe quoi. Votre tour de table, Anne Mazoyer, c'est sur la présidentielle de 2022 qui tombe en même temps que la présidence française de l'Union européenne.
Exactement.
Ça s'appelle le cumul des mandats.
Alors, je ne sais pas si... Non, ça a déjà existé dans le passé. Oui. Ce qui est certain, c'est que ça sera une épreuve pour Emmanuel Macron, dans la mesure où ça intervient à un momentum extrêmement important, à la fois sur l'insécurité et sur la reprise de la pandémie. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup alors qu'il va y avoir donc cette première échéance dont on va nous parler bientôt, puisqu'il y a une conférence de presse qui est prévue à la mi-décembre par l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour présenter ce que va être la présidence française de l'Union européenne. Donc, ça sera forcément des sujets qui vont être traités également.
Ce sera le plan de route,
également.
Quoi.
Comment ?
Le plan de route, le plan de vol qui sera dévoilé.
Oui, alors le plan de vol, à la fois pour l'Europe, certainement, mais qui donnera l'occasion à Emmanuel Macron de s'exprimer dans le cadre de sa propre campagne, ça c'est certain, et à un moment qui est compliqué, à la fois sur le plan citoyen et un moment compliqué sur le plan sanitaire.
Philippe Bilger, c'est vrai que c'est compliqué, la présidence française de l'UE, vu la situation de la pandémie, la situation de la sécurité, et en même temps devoir gérer une campagne présidentielle, non ?
Je partage d'autant plus le point de vue d'Anne que...
Ah, c'est consensuel les débats ce soir, hein.
Non, mais attendez, qu'il y a quelques semaines, il était évident que le président de la République attendait ce moment de gloire française avec enthousiasme et qu'il y voyait un moyen de terminer en beauté un quinquennat. Et donc, et dans le triomphe de la réélection, et c'est toujours possible, mais Anne a tout à fait raison aujourd'hui d'évoquer toutes les difficultés qui vont rendre beaucoup plus malaisé ce triomphe. Et donc, au lieu que ce soit un chemin pavé de roses, cette présidence française va représenter non pas une coulée d'épines, mais quelque chose qui exigera beaucoup de lucidité, de volonté et de savoir politique.
Caroline Pilastre.
C'est une bonne visibilité pour la France. De toute manière, nous savons tous que M. Macron et Clarem sont des européistes convaincus. Alors, on va aplanir beaucoup de sujets, comme l'environnement, le numérique. Moi, j'attends surtout la France sur l'immigration et l'insécurité, forcément. Donc, on verra ce qu'il en ressortira.
Mais est-ce que ça ne va pas poser problème quand même ? Imaginons que Emmanuel Macron ne soit pas réélu le 10 avril ou le 24 avril
ça
prochain.
Ça s'arrête le 30 avril.
Ça s'arrête le 30 avril.
La présidence de l'Union européenne française ne pourra pas se poursuivre au-delà du 30 avril s'il n'est pas réélu. Puisqu'il n'y a que le président donc, du pays concerné, puisque c'est une présidence tournante, qui peut incarner cette présidence et puis surtout qui peut agir. Raison pour laquelle... probablement, le programme qu'il va présenter tiendra en 3 mois pour que le 31 mars, les principales réformes auxquelles vous faisiez du reste allusion, Caroline, notamment sur la transition écologique, le numérique, les transports et autres joyeusetés comme l'immigration, et Dieu sait qu'en Europe, en ce moment, c'est compliqué, surtout en Europe de l'Est.
En Pologne,
c'est vrai,
un pays
ça
que
doit
vous connaissez
être,
bien.
Que je connais très très bien, sujet que je connais très bien, et c'est vrai que clairement, le 31 mars, il faudra que, je dirais, ces sujets-là soient sortis par le haut, d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il réussira, mais en tout cas, c'est très court, 3 mois.
Oui,
c'est très, très court.
Ça va être très court. Et justement, très court, Philippe Bilger, Caroline Pilastre, 3 mois pour faire la présidence, c'est quand même la présidence TGV.
Oui, mais en même temps, ça compensera...
En même temps, ça va très bien.
En même temps, ça compensera largement avec tous les projets et tout ce que le président de la République nous annonce et qui dépassera très largement, si on l'écoute bien, le cadre de son mandat.
Oui, oui.
Je pense qu'il va très être très court. Bon de toute manière sur la question européenne, hein, parce que vraiment, c'est une question qui prend à bras le corps et qui fait partie de son ADN foncièrement. Mais je vous dis, moi je l'attends sur des questions que j'estime être essentielles pour la suite des événements sur le plan européen.
Merci pour ces tours de table. De suite, on a le verdict qui vient de tomber à Lyon.
Alors,
ce sera pas 6 mois de prison ferme, mais 6 mois de prison avec sursis probatoire, donc, et 5 ans d'interdiction de stade, plus réparation des dommages. On va voir combien coûtent les réparations des dommages, parce que je pense que Dimitri Payet a de bons avocats pour négocier les dommages aux civils, et y compris le club qui va peut-être devoir rembourser les places des 45 ou 50 000 personnes qui étaient venues pour voir un match qui a duré en tout et pour tout 4 minutes. Tout de suite, notre premier débat, Resto du Cœur, avez-vous peur d'y avoir recours un jour ? Ça monte petit à petit, mais inexorablement, vous êtes maintenant 64% à dire oui. Vous voulez en débattre ? Vous appelez le 0826-300-300, on va avoir avec nous dans quelques instants Claude Bougère, membre du Bureau National des Restos du Cœur.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et oui les amis, et oui les vraies voix qui sont Philippe Bilger, Anne Mazoyer et Caroline Pilastre, cette chanson, accrochez-vous bien, à 36 ans, elle avait été écrite en 1985 par Jean-Jacques Goldman, ce qui fera plaisir à Philippe Bilger qui est un fan total de Jean-Jacques Goldman. Et aujourd'hui a lieu le lancement de la 37e campagne des Restos du Cœur. Malheureusement, depuis que nous sommes dans une période de crise sanitaire, de plus en plus de gens se retrouvent dans des situations de plus grande précarité. L'an dernier, 142 millions de repas ont été distribués. Parmi les bénéficiaires, 15% ont déclaré être venus pour la première fois. Nous sommes avec Claude Bougère, membre du Bureau national des Restos du Cœur. Claude Bougère, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Pour cet hiver, vous attendez-vous à encore plus de monde que l'an dernier ?
Alors, s'assurer du nombre que l'on aura cet hiver, on ne sait pas le dire. Par contre, le constat qui est évident aujourd'hui quand on fait le point avec nos équipes terrain, c'est que les personnes que l'on connaît déjà, les personnes qui fréquentaient déjà les restos depuis les mois écoulés, et notamment la crise sanitaire, ont vu leur situation se dégrader énormément. La crise a joué comme un accélérateur de pauvreté. Et ça nous alerte.
Philippe Bilger.
Claude Bougère, la question de Sud Radio était de savoir si on craignait de se retrouver dans une telle situation. Je ne vais pas jouer à l'hypocrite. Je sais, en ce qui me concerne, que je ne courrais jamais ce risque, d'abord parce que j'ai un environnement exceptionnel autour de moi. Mais votre action et l'amplification de la misère montrent à quel point les débats récents sur le fait que apparemment la France va mieux, que ça, on a du pouvoir d'achat, que les gens sont plus heureux, eh bien, sont assez scandaleux, voire indécents, puisque les Restos du Cœur sont un des exemples les plus parlants, les plus douloureux de la réalité sociale. Et donc là, il ne peut plus y avoir de doute à ce sujet.
Claude Bougère.
Effectivement, la solidarité, la lutte contre la précarité font partie des sujets qui doivent être portés aujourd'hui par les politiques et notamment les candidats qui se présenteront dans quelques mois. Maintenant, nous on est là, les bénévoles sont des gens de terrain qui sont là pour répondre à l'urgence, qui sont là pour assurer aussi des rencontres régulières. Aujourd'hui, les restos c'est toute l'année. C'est 12 mois sur 12 avec des équipes qui sont mobilisées. Le maillage est très important sur tout le territoire et notre objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route.
Caroline Pilastre.
Bien sûr que ça me fait peur. Nul n'est à l'abri d'un déclassement ou d'un changement de situation. Avec cette crise, vous avez eu encore plus de personnes qui ont été paupérisées, puisque vous avez des familles monoparentales, vous avez beaucoup d'étudiants, les retraités. Déjà, madame, je tiens à vous dire, parce que je suis également une bénévole, que vous faites un travail formidable. Et heureusement que vous êtes là, parce que vous palliez aux carences de l'État. Et je pense, sans trop m'avancer, que depuis 37 ans, cette situation ne devrait plus perdurer et qu'à la base, Coluche ne l'a pas fait pour ça. Coluche l'a fait vraiment pour faire un focus sur la misère dans notre pays.
Il avait dit qu'il espérait que ça arrête en quelques années. Il est mort malheureusement un an après, en 86.
Évidemment. N'oublions pas aussi que dans le Lot, vous avez énormément de personnes en situation de handicap qui sont sous le seuil de pauvreté. Et évidemment que les candidats à la présidentielle doivent s'emparer de ce sujet parce que la lutte contre la misère, ça devrait être prioritaire dans notre pays.
Claude Bougère.
Coluche était effectivement une figure très populaire, un rassembleur qui a eu, qui a vraiment mis en place un élan de solidarité incommensurable, et on voit la force que ça a généré, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce rassemblement autour de lui, autour du personnage, parce que cette image de Coluche perdure aujourd'hui dans toutes nos structures, on ne serait plus là certainement pour assurer de cette façon-là notre mission. Donc aujourd'hui, effectivement, les restos accueillent de plus en plus de jeunes, de plus en plus de retraités. Une personne sur deux des personnes qui sont accueillies chez nous ont moins de 25 ans, et 40% du 1 200 000 personnes que l'on a rencontrées là sur la campagne écoulée sont des mineurs. Donc c'est vrai que ces publics là nous alertent. Il est important aujourd'hui de prendre en compte ces personnes-là et de ne pas creuser un peu plus leurs difficultés et les amener vraiment dans une situation de plus en plus difficile.
Anne Mazoyer.
Alors, vous voyez, en vous écoutant, madame, d'abord, c'est vrai que vous faites un travail absolument incroyable, mais je me demande ce que Coluche aurait dit aujourd'hui. Ce qu'il caractérisait, c'était évidemment un humour pour le moins cinglant, mais surtout, je dirais, une façon de considérer la société avec une vérité, et avec une vérité assez chirurgicale, assez douloureuse. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est le coup de gueule. C'est-à-dire, aujourd'hui, plus personne n'ose parler de ces sujets. Je ne parle pas, bien entendu, de l'association elle-même, mais toutes ces personnes qui finalement essayent de chanter, essayent de jouer la comédie, essayent, si vous voulez, de se servir de leur nom, que ce soit en politique, dans le domaine artistique, dans le domaine journalistique. Plus personne n'a cette personnalité très incisive qu'avait Coluche, de dire les choses un peu crûment, et de le dire avec, non pas la violence qui caractérise notre époque, mais avec ce sentiment de vérité. Et je trouve que c'est dommage, parce que finalement, tout le monde prend des airs de commisération, mais finalement, on ne dit pas les choses comme elles devraient l'être. Et moi, quand je vois les chiffres que mon équipe m'a préparés, je suis atterrée. D'abord, moi-même, je suis dans le même cas que Philippe Bilger, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai un environnement très, très protecteur. Mais c'est vraiment une chance. Et je regrette d'avoir à dire que ce sont les populations qui sont désocialisées, désociabilisées, qui sont les plus atteintes et dont personne ne parlera. Et dont personne ne parlera, parce que finalement, aujourd'hui, on les met sous le tapis en se disant « la majorité des Français s'en sort, la majorité des Français a un niveau de vie qui est tout à fait respectable, mais il y a combien de jeunes ?» Puisque aujourd'hui, on me dit que 40% des bénéficiaires aujourd'hui sont des mineurs. Mais est-ce que c'est acceptable dans un pays soi-disant très civilisé ? Est-ce que c'est acceptable qu'il y ait 25% d'augmentation des distributions alimentaires, y compris auprès des personnes qui ont 60 ans et plus, c'est-à-dire qui ne sont pas très âgées. C'est pas, je dirais, des gens qui ont 90 ans. C'est des gens qui ont entre 60, 75, 80 ans et qui, effectivement, ne peuvent plus joindre les deux bouts. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un humoriste, parmi tous ces humoristes qui fleurissent depuis ces 10 dernières années, qui ne prend pas la plume, mais une plume trempée dans l'acide ? et non pas seulement dans les bons sentiments. C'est de la com', ça.
Peut-être que les comiques, c'est pas méchant, mais peut-être que les comiques aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a le talent qu'avait Coluche à l'époque, soit dit en passant. Claude Bougère.
Ou le courage.
Je dirais que nous, on est dans la bienveillance. Déjà, il y a un des principes fondateurs des restos, c'est l'indépendance. Hein, l'indépendance vis-à-vis du religieux, vis-à-vis du politique. Et on souhaite rester dans cette neutralité. On est des gens d'action. Et notre mission, aujourd'hui, elle est d'aller sur le terrain, d'être dans un accueil inconditionnel. On accueille tout le monde, sans jugement, sans un discours, sans baratin, comme le disait si bien Coluche. Nous, notre mission, elle est là d'être... les gens, ils sont pas sous le tapis. Ils sont là, ils sont accueillis chez nous. Ceux que l'on ne rencontre pas dans nos centres, on met aujourd'hui des structures en place pour se déplacer vers eux. Avant, on accueillait on continue, hein, on a un maillage de 2000 centres sur le territoire, mais aujourd'hui, on met en place des centres itinérants, ce qui nous permet également de réduire l'isolement des retraités, notamment, qui sont aussi touchés par la crise. On parle des jeunes, mais on parle également des retraités. Et les retraités, dans nos rangs bénévoles, il y en a qui aujourd'hui deviennent bénévoles et qui sont également aidés par les Restos du Cœur. Et c'est normal. Et on joue ce rôle sans aucun jugement. C'est très important.
Philippe Bilger court, parce qu'après, et Caroline Pilastre court, parce qu'on va au 0826-300-300.
Promis, très court. Il y a un point très important qu'a formulé Anne à l'instant. C'est bien sûr, ça n'est pas du tout mettre en cause la qualité, l'impartialité et l'équité du travail des Restos du Cœur. Mais je suis persuadé que cette immense cause de la misère, évidemment, est moins exploitée parce que Coluche n'est plus là, et en particulier parce que Jean-Jacques Goldman, qui était une grande voix plausible dans ce domaine, a décidé d'abandonner. Regardez à quel point un grand footballeur anglais a attiré l'attention sur la misère de certains jeunes enfants, à quel point ça a été une argumentation qui a fait fléchir le politique. Donc Anne a tout à fait raison, il faut en plus des grandes voix exemplaires, j'insiste lourdement là-dessus.
Caroline Pilastre, très court.
Très rapidement, oui. Justement, je voulais revenir sur la notoriété de certains. Je voulais savoir ce que vous pensez de la polémique qu'il y a chaque année lors du concert des Restos du Cœur, Moi, je suis exaspérée. Je vais vous dire pourquoi. Qu'il y ait des artistes qui viennent se mettre en avant une fois dans l'année parce qu'ils ont moins de médiatisation que certains autres. Ok, on peut l'entendre. Mais vous nourrissez des millions de Français. Et donc, les Restos du Cœur, c'est une association qui est d'utilité publique. Vous faites un travail, comme on le disait, extraordinaire. Est-ce que vous pensez que cette polémique, encore à notre époque, devrait persister, perdurer, ou que c'est totalement vain à l'arrivée, puisque ce que vous faites au quotidien, c'est 365 jours sur 365.
Claude Bougère, et on part au 0826-300-300.
Non, le travail que fait le spectacle des Enfoirés et toute la médiatisation qui va avec sont aujourd'hui essentiels pour que nous permettre de maintenir nos activités et l'aide alimentaire et le niveau de prestation que l'on attend, enfin d'accompagnement de toutes les personnes que l'on accueille. Sachez aujourd'hui que justement la médiatisation du spectacle des Enfoirés, qui a lieu systématiquement au moment de la collecte nationale, qui est un moment très très fort, c'est également un moment de rencontre de nos équipes avec les donateurs, avec vous, moi, tous qui allons faire nos courses et qui à ce moment-là peuvent poser des questions et se rendre compte. Et je vous assure que là, pour le coup, c'est un moyen de montrer, de rassembler également les bénévoles autour de ce moment de générosité pour les restos et pour notre association.
On part au 0826-300-300, direction l'Aude. Bonsoir Christian.
Bonsoir à toute l'équipe.
Vous avez appelé 0826-300-300 avec un message qui nous a beaucoup touchés. Je devrais y avoir droit, mais la fierté m'en empêche. On vous écoute, Christian.
Oui, et vous vous retrouvez à 53 ans sur un chantier de réinsertion suite à certains accidents de la vie, comme beaucoup. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Et on est nombreux à ne pas vouloir bénéficier des Restos du Cœur. Moi, pour ma part, je fais un repas sur 4.
Oh là là, oui.
Et encore, je ne sais pas comment je vais finir le mois. parce que le peu qui me reste, je vais le garder pour mettre du gazon dans la voiture pour aller travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire, hein? Ben, je vais boire du café, je vais prendre du sucre et je vais tenir comme ça. Mais le gouvernement se fout de tout le monde. Se fout de tout le monde en disant que la vie va mieux, le pouvoir d'achat a augmenté. Mais où il a augmenté? Il a augmenté sur les grosses classes. Pas sur la classe moyenne. La classe moyenne, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, la classe moyenne. Quelqu'un qui touche 1200 euros, il ne s'en sort pas. Alors pensez, quelqu'un qui est en insertion avec 900 euros, à peine, avec tous les frais qu'il a. Et on ne va pas vous donner la CMU parce que l'an dernier, vous avez trop déclaré. Mais c'est aujourd'hui que j'ai faim. C'est pas dans un an. Vous comprenez ce que je veux dire?
Non, mais c'est poignant. Ça rejoint un commentaire qu'on a d'un fidèle auditeur, Ludovic, qui tweete « Presque 40 ans d'existence où le nombre de personnes y recourant augmente tous les ans, même des salariés, signe d'une paupérisation de la société croissante et d'une perte de pouvoir d'achat. » Christian, restez avec nous à faire réagir Claude Bougère. Claude Bougère, toutes les vraies voix, je les vois dans le studio, sont très émus par le témoignage de Christian Delotte. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Vous qui êtes membre du Bureau national des Restos du Cœur. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'aller au Resto du Cœur et que Christian ne doit pas faire un repas sur quatre. Hein. Je le dis, c'est mon avis.
Surtout pas. Moi aussi, je suis très touchée par le témoignage de Christian. D'autant que moi, je viens du terrain. Hein. J'étais en association départementale en Ille-et-Vilaine. J'ai fait de la distribution alimentaire. J'ai animé une association départementale avec toutes les équipes, avec 17 centres, avec des activités de rue. Donc, il y a un accueil certainement pour vous, Christian, quelque part. Je ne peux que vous encourager à franchir un jour la porte, ne serait-ce que pour avoir un sourire, pour aller boire un café, si vous voulez juste rentrer et voir comment ça se passe et comment se fait l'accueil dans un centre resto, vous pouvez leur demander et leur dire que c'est très difficile pour vous de faire cette démarche-là. Mais en tout cas, sachez que l'argent que vous pourrez économiser en étant aidé pour l'aide alimentaire et peut-être d'autres démarches encore qui là vous parliez justement de la CMU, il y a certainement, on accompagne également des personnes en difficulté sur d'autres démarches et nos bénévoles sont formés pour le faire. Donc je ne peux que vous inviter à y aller. Et puis si c'est trop difficile en plein jour de vous rendre dans un centre resto, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais nous avons également beaucoup d'équipes qui sont là pour les... Non, alors déjà, il y a effectivement des gens qui livrent, aujourd'hui, comme je le disais, on met en place des centres itinérants, donc ce sont des gens qui vont aller vers les personnes en difficulté, ceux qui sont le plus éloignés, ceux qui sont vraiment en rupture parfois totale de lien social. Mais il y a également aussi nos équipes qui s'occupent des personnes en très grande précarité dans la rue. On peut vous servir un repas, vous pouvez aller également dans des centres où il y a des camions chauds qui viennent servir des repas complets. Et là, on ne vous demandera pas votre nom, on ne vous demandera pas votre situation, rien du tout. On sera là juste pour vous sourire, pour vous réchauffer le cœur, vous réchauffer aussi l'estomac. Si vous avez envie d'y aller plusieurs soirs par semaine, vous pourriez y aller plusieurs soirs par semaine. Et là, voilà, l'anonymat sera complètement respecté et peut-être que c'est le premier pas que vous pouvez faire.
Christian, si vous le voulez, vous êtes toujours avec nous, je crois.
Oui.
Votre message a vraiment touché les vraies voix. Et là, on arrive au bout de l'émission. Allez-y, de la chronique. Allez, en 15 secondes, et je vais vous proposer quelque chose.
J'entends ce que vous dites. Hein. C'est très bien hein, au niveau de l'association et des autres associations qui œuvrent comme vous. Mais j'ai été au service de l'autre toute ma vie. J'ai été éducateur. Et je ne peux pas. Dans mon intérieur, vous comprenez, je ne peux pas aller.
Écoutez, on va voir. On a vos coordonnées, Christian. On a les coordonnées de Claude Bougère, qu'évidemment, on ne donne pas à l'antenne. On va voir éventuellement si Claude Bougère est d'accord pour vous mettre en contact avec quelqu'un des restaurants du cœur de l'Aude, que vous soyez à Carcassonne, à Lézignan, à Narbonne, peu importe, parce que nous, vraiment, on veut pas que vous fassiez un repas sur quatre. Christian, on se permet de vous soutenir et de vous embrasser. Et je pense vraiment qu'avec les Restos du Cœur, avec Claude Bougère, on va arriver à vous filer un coup de main. Et surtout, n'ayez pas honte, vous n'avez pas à avoir honte. Ça, au moins, c'est clair.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose, Christian. Vous avez dit quelque chose de très, très important à l'instant. Vous avez dit « j'ai toujours été au service de l'autre ». Et si vous voulez continuer à être au service de l'autre, parce que vous êtes jeune, 53 ans, c'est jeune, il faut que vous mangiez, il faut que vous ayez de l'énergie, il faut que vous vous battiez pour vous, pour continuer à être au service des autres qui en ont peut-être plus besoin encore que vous.
Et Christian, mais dites-vous qu'on est tous une chaîne. Bien sûr que ça doit être très difficile en termes de dignité.
On est tous une chaîne.
Mais vous avez besoin qu'on vous tende la main et il n'y a aucune honte à ça. On est tous des humains.
Merci Christian, ça a beaucoup appelé pour ce débat. Vous pouvez tous évidemment contacter les Restos du Cœur. Merci Claude Bougère, verdict sur Twitter. Avez-vous peur d'y avoir recours un jour au Restos du Cœur? Vous êtes 65,6% à dire oui. On voulait un peu de légèreté, les vraies voix. Et bien tout de suite, ça va être la chronique présidentielle d'Esteban Ragnat.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Anne Mazoli et Caroline Pilastre. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle d'Esteban Ragnat. Et mon cher Esteban, il y en a une aujourd'hui qui peut faire sauter les bouchons de champagne.
Et oui, Marine Le Pen doit boire du petit lait en lisant le dernier sondage Odoxa mascaré pour Public Sénat, LCP et la presse régionale. Un sondage dans lequel elle bat Éric Zemmour dans tous les domaines. Vous allez voir, Philippe, la présidente du Rassemblement National n'est rejetée que par 49% des Français contre 61% pour le polémiste. Ainsi, 27% des citoyens considèrent que Marine Le Pen est capable de diriger la France contre 13% pour Éric Zemmour. Et puis surtout, chiffre important pour elle, seuls 15% des Français jugent Marine Le Pen dangereuse, soit 37 points d'écart avec le polémiste sur cet indicateur. Justement, Philippe, on a la réaction de la candidate à la présidentielle.
Je vais mieux, beaucoup mieux. Je me sens vraiment mieux.
Les vraies voix, Marine Le Pen qui reprend du baume au cœur.
Du poil de la bête.
Hein. De la bête.
Elle a été en retrait par rapport à M. Zemmour. Hein. Donc je pense que c'est ça en fait le point positif pour elle. On l'a moins entendu et quand on l'entendait, hein, c'était stratégiquement peut-être plus intéressant en termes de communication politique. Tandis que M. Zemmour, à force d'être surexposé, est en train, pour moi, de se tirer une balle dans le pied par rapport à l'électorat. L'électorat qui était très intéressé par sa candidature, parce qu'il a rabattu les cartes, comme on le sait tous, hein, au niveau de la présidentielle. C'est pour ça que tout le monde est en campagne actuellement. Mais à force de trop voir les gens, même s'ils vous apprécient, il y a un côté où vous êtes saoulé, si je puis dire. On parlait de bouchon de champagne.
Ça s'essouffle pour Éric Zemmour.
Anne Mazoyer.
Alors, non seulement ça s'essouffle, mais ça s'essouffle parce que le disque est rayé. Et donc, en fait, c'est finalement les mêmes slogans, les mêmes idées depuis ces dernières semaines. Et puis finalement, ils ont peut-être eu une connivence. Qui sait, ça lui permet aujourd'hui, elle, de sortir la tête haute de toute cette histoire.
Ah, vous pensez? Moi, j'y crois pas du tout.
Non,
hein. Vu les égos surdimensionnés, non, mais j'ai compris.
C'était une plaisanterie.
Philippe Bilger.
Non, on sentait venir ce sondage depuis quelque temps, mais je ne l'imaginais pas aussi net tout de même. Il est vrai qu'Éric Zemmour, et je l'ai dit ailleurs, a pu donner l'impression, au fond, d'avoir tout dit de manière anticipée. Et il y avait une forme de lassitude naturelle qui s'installait. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'il ait raison lorsqu'il dit que sa candidature officielle reboostera sa campagne. Je crains que ce soit l'inverse et que le déclin s'aggrave.
Et puis justement, on a aussi la conversation téléphonique entre Marine Le Pen et le patron de Odoxa, l'Institut de sondage. Autre sujet dans les propositions de la présidentielle, on a aussi Michel Barnier qui fait beaucoup jaser. Il demande le rétablissement du service militaire obligatoire pour une durée de 6 mois. On écoute l'accueil du premier contingent.
Excuse.
Chef, excuse, pourquoi, chef?
C'est moi qui les pose les questions, deuxième pompe. Est-ce que tu peux comprendre ça?
Chef, oui, chef.
Très bien, merci beaucoup, merci. Alors, je peux donner des ordres, peut-être?
Chef, oui, chef.
Et vous, les VV, un retour du service militaire, est-ce que ça vous...
Bon, je pense que Caroline Pilastre et Mazoyer n'ont pas fait...
non.
Trop de TIG couloir, par exemple.
Non, ça c'est sûr, mais bon, non, mais si en termes d'autorité, moi aussi,
moi,
ça peut remettre les idées en place de certains, pourquoi pas?
Anne Mazoyer, vous êtes pour le retour au service militaire?
Oui, oui, et puis aussi,
bien
parce que je pense que ce qui est important, et on oublie trop souvent de le dire, c'est que c'était un encadrement, parfois, pour des jeunes qui étaient un peu perdus, et qui étaient désocialisés, et je trouve que, oui, ça serait pas mal de leur apprendre certaines valeurs.
Philippe Bilger, le retour du service militaire, même pour 6 mois, vous êtes pour?
Non, je ne crois pas, même si je comprends Michel Barnier qui a besoin de trouver un certain nombre de propositions un peu provocatrices, mais la recherche d'un lien est fondamentale. Mais je crois que le service militaire n'est peut-être pas aujourd'hui l'idée la plus opératoire.
On a retrouvé le son du départ de Philippe Bigère lorsqu'il était conscrit. Voici ce qu'il a dit à son chef de corps.
C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner.
Philippe, qu'est-ce qui vous a empêché de gagner alors?
Peut-être que j'ai trop mauvais caractère.
Ah, ça vous va bien. Je trouvais pas que Philippe Bilger en Rambo, c'est quelque chose de très crédible.
Non, c'est un rebelle, évidemment.
C'est aussi peu plausible que tout à l'heure, Philippe.
Ah non, n'est-ce pas, Esteban?
Non, moi je
le seul courage que j'ai, il est intellectuel. Le physique, je l'ai jamais eu.
Ah bon, ça, écoutez, il est jamais trop tard pour bien faire. Merci beaucoup, Esteban Ragna. Bon, le service militaire, je pense qu'on va en redébattre dans pas longtemps, parce que dans le prochain débat des Républicains, je pense que l'idée va peut-être être mise sur la table. Donc, à 18h30, notre grand débat, faut-il une troisième dose pour tous? Vous êtes 90,6% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger. On va rester à président, hein. Président de l'Institut de la Parole, auteur d'un excellent livre d'aphorismes, libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Il est toujours là. Anne Mazoyer, présidente aussi et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires.
Merci Philippe.
Toujours en pleine forme. Et Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel et chroniqueuse Sud Radio. Rebonsoir ma chère Caroline.
Rebonsoir Philippe.
À 18h30, notre grand débat. Faut-il une troisième dose pour tous? Oui, puisque l'affaire est sur le tapis. Depuis que les professeurs, c'est pas Salomon, c'est Delfrécy notamment, et Fischer, ont proposé une troisième dose pour tous. Ce sera notre débat de 18h30. On aura le professeur Bruno Mégarban avec nous et vous êtes 89,9% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Vous avez l'air en pleine forme pour cette deuxième heure, les vraies voix.
Mais nous le sommes.
Un petit tour de table de l'actualité de Caroline Pilastre, ça vous irait?
Mais avec joie.
Eh ben, c'est parti.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Et ma chère Caroline voulait parler de Jean Castex.
Exactement, Philippe, ça n'a pas dû vous échapper, hein, mais notre cher Premier ministre a été déclaré positif à la Covid-19. Il est qu'à contact.
C'est pas la première fois d'ailleurs.
Non, c'est la quatrième fois. Voilà. Il n'a pas de chance, le pauvre. Il a été. Il est qu'à contact, pardon, de sa fille de 11 ans. Il est donc en isolement pendant 10 jours. Mais moi, je voudrais revenir sur. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais de la part quand même des politiques qui devraient être exemplaires avec les gestes barrières. Monsieur Castex a été vu il y a quelques jours, puisque c'est une vidéo qui tourne partout désormais, au congrès des maires, serrant des mains, à tire-larigot, s'approchant des gens à 15 cm, sans masque bien évidemment, avec la bonhomie qu'on lui connaît. Alors moi je vais vous dire, j'en ai un petit peu marre de tous ces politiques qui passent leur temps à faire les donneurs de leçons par rapport à nous, personnes lambda, qui, c'est vrai, sommes aussi de temps en temps dans un relâchement. On sait très bien qu'on est en plein dans la cinquième vague. Alors qu'a répondu l'Élysée? Parce qu'évidemment, ça les met quand même un peu à mal, cette histoire. Ils ont dit, vous comprenez, il a été testé, il était avec son pass sanitaire, comme si le pass sanitaire servait d'immunité, que c'était un grand bouclier pour éviter la Covid. Non, on peut être vacciné des deux doses.
Votre téléphone détruit les virus, c'est bien.
Oui, mais bien sûr, c'est Tchernobyl, vous savez bien, le nuage à la frontière. Mais donc, il faut continuer à faire attention. Et je voudrais aussi revenir sur cette anecdote pas tellement drôle du côté des Belges, mais malheureusement, le gouvernement belge est encore en grande partie en quarantaine parce qu'en 2020, ils avaient été contaminés par M. Macron et maintenant, c'est par M. Castex. Donc le Premier ministre doit être ravi. Donc c'était mon petit coup de gueule pour dire arrêtez de nous faire des leçons de morale sur les gestes barrières. On essaye de faire notre maximum et ça n'est pas facile. Montrez-nous l'exemple.
La presse flamande, qui n'est pas fondamentalement francophile, va peut-être dire que la France attaque régulièrement la Belgique à l'arme bactériologique. Philippe Bilger.
Caroline a évidemment raison, c'est le fond de la contestation française de dire que les politiques, trop souvent, dérogent aux règles qu'ils prétendent imposer. Mais je préférerais finalement, parce que ce soir, ça doit être la présence d'Anne, j'ai l'impression de devenir plus indulgent qu'à l'ordinaire. Je préfère Gabriel Attal, qui a quelques jours a dit... Écoutez, c'est vrai, mais on est humain, quoi. On a commis des erreurs, on s'est relâché. Mon Dieu, c'est une explication qui me paraît plausible aussi.
Anne Mazoyer, qui ne se relâche jamais.
J'essaye, en tout cas. Bah, vous vous souvenez tous de cette citation qui disait « Il n'est de pire tyrannie que celle qui est exercée à l'ombre des lois ». Et je pense que Philippe et Caroline seront d'accord avec moi pour dire que c'est compliqué en ce moment d'imposer cette troisième dose, dans la mesure où de toute façon on sait qu'il y a ce regain épidémique et qu'il y a aussi, je le redis, deux étapes très importantes sur le plan politique et que tout le monde doit être absolument apte à aller voter en avril prochain. Ce n'est que dans 5 mois.
Ça
donc il ne
vite.
Faut pas que cette épidémie...
4 mois et demi pour le premier tour. Hein.
Voilà. Donc il faut, raison de plus,
oui.
Que l'état d'urgence sanitaire perdure au-delà d'une certaine date. Et donc je pense que tout ça est très lié quand même.
On va suivre ça de très près. Les vraies voix, 18h13. Dans quelques instants, on va prendre la direction du Congrès national de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui débute aujourd'hui à Strasbourg. Et on va parler des problèmes de nos restaurateurs qui ont été fort longtemps fermés et des conditions de travail et des salaires qui sont au cœur des débats. On sera avec Adrien Pedrazzi, le secrétaire général de l'UMIH du Lot-et-Garonne.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
C'est dur de travailler.
Ah, on reconnaît Dorothée, ça rappelle le club Dorothée.
Exact.
Ah, c'était votre génération, vous, Caroline Pilastre. Hein. Moi, un peu moins, je n'ose pas parler d'Anne Mazoyer, puisqu'on ne parle pas de l'âge des femmes.
Non, jamais, il faut jamais.
Quant à Philippe Bilger, c'était plutôt Nounours, non?
Ah, mais moi aussi.
Ah, ben moi aussi.
Moi, j'ai adoré Nounours, Paprenelle et Nicolas, c'était merveilleux.
Un culte, ça aussi.
Absolument, le Congrès national de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, l'UMIH, débute aujourd'hui à Strasbourg.
Yes.
Pour l'occasion, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est rendu sur place. Les patrons de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration sont devenus s'entretenir avec lui pour traiter de relance responsable. On a avec nous, dans les vraies voix, Adrien Pedrazzi, le secrétaire général de l'UMIH du Lot-et-Garonne. Bonsoir.
Bonsoir. Donc,
alors,
vous voulez des infos toutes fraîches?
Eh bien sûr, ou toutes chaudes, plutôt dans la restauration, à l'heure à 18h18, une petite entrée chaude, c'est parfait, non?
Eh bien, allez, ouais. Surtout qu'à Strasbourg, je peux vous dire un truc, hein, météo locale, il fait très froid. Ça me change de mon Lot-et-Garonne, je peux vous dire.
On vous écoute. Alors, comme il fait froid, donnez-nous les nouvelles fraîches. Allez-y.
Alors, je vous donne des nouvelles fraîches. Alors, déjà, le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, nous a tout d'abord alerté sur le fait de vraiment maintenir le pass, le contrôle du pass dans nos établissements, simplement pour éviter la fermeture. Voilà, il a été très clair avec nous. Il nous a dit si on sent du relâchement, etc., on va aller vers une fermeture, encore une fois, des établissements. Donc, on ne veut pas arriver à cette extrémité-là. Donc, il faut vraiment maintenir le fait de contrôler les passes à l'entrée de nos établissements. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, il nous a parlé d'un lancement, parce qu'on a un gros problème dans notre secteur d'activité, qui est le recrutement. Et on a absolument besoin, il a mis en avant le lancement d'une grosse campagne de com' sur le recrutement dans notre secteur d'activité, comme ils ont fait avec l'armée. Il nous a pris l'exemple de l'armée, en lui disant, regardez, vous avez vu ce qu'on a fait pour l'armée, on est arrivé à recruter par ce moyen-là. On va essayer de faire la même chose pour la restauration, l'hôtellerie, etc. Tout votre secteur d'activité. Et enfin, surtout un truc très important, surtout pour les restaurateurs, hein, la protection face aux géants du numérique. Vous savez, contre les mauvais avis, les faux avis, etc., les fake news et tout. Voilà, donc ils vont mettre quelque chose en place par rapport à ça. Ensuite, dans l'après-midi, voilà, donc ça c'était pour... pour Monsieur le Ministre. Et cet après-midi, donc, on avait la commission restauration où j'ai assisté. Et là, on a une nouvelle branche de la de l'UMI qui se crée. C'est la partie traiteur événementiel. Qui est vraiment sympa et le taux de commission qui a été négocié avec les principaux acteurs au niveau des tickets restaurants, hein, voilà, qui a été négocié.
D'accord. Les vraies voix, tiens, Philippe Bilger.
Pardon.
Mais j'aimerais
on va échanger. Vous allez échanger avec les vraies voix, Adrien Pedrazzi, Philippe Bilger. Oui.
Monsieur le secrétaire général, vous nous avez offert l'entrée, quasiment le plat de résistance. Moi, je voudrais arriver au dessert et poser une question. À votre avis, la restauration est en crise à l'heure actuelle sur le plan du recrutement. Est-ce que c'est à cause de la difficulté du métier et des horaires très difficile que ce métier impose, ou est-ce que les salaires sont trop bas, ou est-ce que c'est les deux?
Ben, je dirais pas que c'est les deux en général. Le problème, si vous voulez, c'est que au niveau des salaires, c'est on aimerait beaucoup plus payer nos salariés, mais vraiment. Le président, lors du CIRA, nous a parlé de la défiscalisation des pourboires. C'est bien. Allez, hop, en même temps, j'arrive. Voilà. Nous a parlé de la défiscalisation des pourboires, mais ce n'est pas une augmentation de salaire. Donc, ce qui est. Après, nous, on aimerait beaucoup, encore faut-il le pouvoir. Sur le truc, après les horaires, on essaye d'améliorer au maximum les conditions de travail de nos employés. Moi, je fais 2 jours et demi de congé. On essaye vraiment de favoriser les horaires, de mettre en adéquation le salaire également. Mais c'est très très compliqué. On est vraiment dans une. Puis on n'est pas dans des périodes d'embellie, moi, tout simplement.
Anne Mazoyer.
Si j'en crois les chiffres que j'ai, selon la DARES, il y a eu 450 000 salariés qui ont quitté le secteur entre février 2020 et février 2021.
450 000, c'est énorme.
C'est colossal. Et en réalité, il y a une partie des salariés qui semblent être revenus, mais il manque aujourd'hui 150 000 personnes, selon effectivement l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Le seul moyen... Je sais que vous avez eu une première réunion avec les syndicats le 18 novembre, c'est-à-dire il y a exactement c'était
une semaine,
que ça n'a pas débouché sur un accord. Moi, je pense que vous allez devoir revoir votre modèle économique, et vous avez raison, ça va être très compliqué, parce qu'il y a un problème d'horaire, il y a un problème de salaire, il y a un problème également de congés, mais il y a d'autres pays qui y sont arrivés, mais cela dit, peut-être que les autres pays n'ont pas le même coût du travail que celui qui continue de prévaloir en France.
Adrien Pedrazzi.
Tout à fait d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a eu, pendant la période de fermeture, des salariés qu'on a envoyés en formation, qui n'ont pas nécessairement fait. Alors, dans mon établissement, on a fait des formations propres à notre activité, mais il y a d'autres salariés qui sont partis. Moi, j'ai des amis, des confrères, leurs salariés sont partis faire d'autres formations de cariste. Il y en a un qui a passé son permis, des choses comme ça. Et ils ont trouvé très rapidement un travail dans d'autres secteurs d'activité où ils ont leur week-end, et tout ça. Et ils se sont dit, bah, écoute, pour gagner le même salaire, j'ai tous mes week-ends, j'ai tous mes trucs, et puis ils se sont habitués à ne pas travailler, à rester à la maison, profiter de leur famille, etc. Après, nous avons un métier qui est difficile. Le métier de cuisinier serveur, on est dans le top 3 des métiers les plus durs au monde. C'est voilà, il n'y a pas de secret. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, je lance un appel, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système de défiscalisation totale des charges sur les personnels? Alors, je ne dis pas que dans la restauration, on a le personnel médical qui est dans le même cas de figure. Aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont infirmières, elles ne peuvent pas prendre leur jour de congé parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant, elles ont des heures de rab, c'est phénoménal, et on peut pas, elles ne peuvent pas récupérer, et ça n'aurait pas payé. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment on peut trouver quelque chose qui va redonner un petit peu d'embellie à notre métier, de par l'attractivité d'un salaire intéressant.
Caroline Pilastre.
Oui, j'ai deux questions rapides à vous poser, monsieur. Comme vous manquez d'employés, avez-vous pensé aux promotions en interne pour retenir vos salariés? Et la deuxième, est-ce que vous travaillez régulièrement avec les offices du tourisme?
Alors, on travaille en particulier, tout à fait, avec les offices de tourisme. On travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi également, on fait des job dating. On essaye de trouver des solutions, si vous voulez, pour amener les gens à venir postuler dans nos établissements. La promotion interne, c'est toujours délicat sur des petites structures, puisque ben voilà, vous avez la personne va passer en cuisine de commis, peut-être un chef de partie, voilà, après arriver à un moment donné, on pourra plus le faire monter dans notre établissement. Mais après voilà, c'est nous au contraire, on essaie de leur proposer des formations qui les valorisent et qui leur amènent en plus sur leur CV. Des choses intéressantes. On a fait par exemple la cuisson sous vide, on a fait la cuisson basse température, des choses comme ça qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et voilà, on leur amène de plus de cordes à leur arc pour pouvoir justement après se vendre ailleurs si besoin et pouvoir développer ou partir dans un autre restaurant s'ils le veulent.
Oui, vous essayez de vous diversifier pour les conserver.
Ouais, on essaye, mais c'est très très compliqué aujourd'hui de trouver du bon personnel motivé. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais.
Mais je voudrais vous poser une dernière question.
Justement.
Aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, l'UMIH, comment est-ce que vous êtes remis des différents confinements? Parce que je me souviens qu'aller entre mars et juin 2020, on n'a pas eu de restaurant, et qu'en octobre 2020 et mai 2021, on n'a pas eu de restaurant non plus. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris des PGE. Dans quel état êtes-vous? Parce que les PGE, c'est bien, mais après, si on ne peut pas les rembourser, voilà, ça vient de la dette publique. Hein.
Voilà, ce qu'on a dit un petit peu ce matin au ministre de l'Économie, c'est aujourd'hui, certains restaurants sont dans une catastrophe, il n'y a pas d'autre terme, où ils ont dépensé le PGE, ils n'ont plus de trésorerie. Et aujourd'hui, voilà, on arrive sur une réouverture des restaurants où il leur manque du personnel, où ils n'arrivent pas à recréer cette richesse et cette trésorerie. Et voilà, on est très très inquiet pour certains établissements. C'est pour ça qu'on a dit, on a demandé un étalement du PGE plus long que ce qui est prévu, etc. Voire peut-être une annulation d'une partie du PGE. Bon, la totalité du PGE, j'y crois pas, mais au moins une partie pour les restaurants qui sont le plus en difficulté. Aujourd'hui, je vous garantis que je pense qu'en début d'année, premier trimestre 2022, dans le secteur de la restauration, dont je fais partie, je peux vous dire que j'ai certains collègues qui sont vraiment dans une mauvaise posture. Voilà.
Eh bien, écoutez,
et j'espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir, on essaie de tout mettre en place, nous, à l'UMI, pour essayer de les aider de toutes les manières qu'on peut, on essaie de trouver des solutions. Je vous jure, c'est vraiment très, très compliqué.
Merci beaucoup, on suivra ça de près, puisque sur Sud Radio, on aime nos cafetiers, nos restaurateurs, nos bistrotiers, nos hôteliers. Merci Adrien Pedrazzi, secrétaire général de l'UMIH du Lot-et-Garonne. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il une troisième dose pour tous? Évidemment, une troisième dose de vaccin anti-Covid, pas une troisième dose de Ricard. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je le dis ça parce qu'il est 18h28. Eh bien, pour le moment, vous êtes 90% à dire non sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose.
On parle de doses. Oui, faut-il une troisième dose pour tous? Après un avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par Alain Fischer, c'est le Conseil scientifique réuni autour de Jean-François Delfraissy qui s'y dit favorable. Et c'est la question qu'on vous pose ce soir dans Les Vraies Voix. Pour l'instant, elle est accessible pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont eu la seconde injection il y a 6 mois et pour les gens souffrant de comorbidité avec un haut risque de forme grave ou sévèrement immunodéprimé. D'où notre grand débat, faut-il une troisième dose pour tous? Et vous êtes 89,8% à dire non sur Twitter. Avec nous, Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bonsoir Bruno Mégarban.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, faut-il ouvrir, rendre obligatoire la troisième dose pour tout le monde?
Alors j'allais dire, à terme, oui, effectivement. On va dire, ça fait partie du schéma de vaccination. Lorsqu'on a un vaccin inerte, eh bien, il est tout à fait logique de faire des rappels afin de restimuler l'immunité pour que la protection soit optimale. Maintenant, faut-il le faire et dans quel délai? Donc, on sait que l'immunité et en corollaire, la protection diminue à partir du sixième mois. Donc, il faut absolument respecter ce délai de six mois entre les deux doses initiales et la dose de rappel. Et effectivement, plus le temps passe et plus il y a une diminution de la protection, et celle-ci est plus marquée naturellement auprès des personnes qui sont à plus haut risque de faire une forme grave de la maladie, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les personnes avec comorbidité, autrement dit, toutes les personnes qui sont actuellement ciblées et qui relèvent de la troisième dose le plus rapidement possible. Par ailleurs, évidemment, comme l'a rappelé la Haute Autorité de Santé, il y a à l'échelle individuelle un bénéfice de cette troisième dose en termes de protection jusqu'à 40 ans. Donc oui, il faut faire cette troisième dose de rappel pour les personnes de plus de 40 ans lorsqu'effectivement il y aura ces fameux six mois écoulés. Maintenant, faut-il le faire tous en même temps? Je dirais, il vaut mieux hiérarchiser les choses parce qu'il faut quand même s'adapter à la logistique disponible. Il ne faut pas, bien sûr, que les rendez-vous dans les centres de vaccination encore ouverts soient trustés par des personnes à moindre risque. Alors, les personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées attendent pour avoir cette troisième dose, car aujourd'hui, à nouveau, on ne rencontre à l'hôpital des personnes doublement vaccinées qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie.
Philippe Bilger.
Je suis rassuré, moi l'ignorant que je suis, de savoir que je vais m'inscrire dans le savoir de Bruno Mégarban. Parce que, très modestement, j'allais dire que, évidemment, je suis favorable à cette troisième dose pour la raison empirique que je l'ai déjà reçue et que je me sens bien après l'avoir reçue. Mais plus globalement... Ah,
ceux qui vous fréquentent n'en sont pas si convaincus non, que ça, mais ça, ça ne regarde
plus
que
sérieux,
moi.
Plus sérieusement, je doute un peu de cette injonction qu'on fait pratiquement à tous les Français de se décréter médecin afin de savoir si une troisième dose est nécessaire ou non. Bruno Mégarban vient de dire ce qu'il en est et je le rejoins totalement et je n'ai aucune raison, étant légitimiste, de douter des propositions et des conseils de messieurs Fischer et Delfrécy. J'ajoute, mais peut-être suis-je en dehors du sujet, qu'un certain nombre de voix dissidentes dont on a fait grand bruit durant des mois ont du plomb dans l'aile et même peut-être plus gravement que ça. Et donc je suis allègrement légitimiste et j'approuve totalement Bruno Mégarban.
Bruno Mégarban.
Gentil.
Ah ben, donc, s'il vous approuve, si vous n'avez rien à répondre, Anne Mazoyer, voilà.
Validé. Alors, validé. Moi, je...
Bien dans le micro.
Je dirais que je suis très humble par rapport à tout cela, parce que d'abord, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'effectivement, il faut bloquer ce regain épidémique, peut-être le faire dans des temps qui seront impartis et qui seront clarifiés demain, puisque je crois que demain, il y a le fameux conseil scientifique qui se réunit à nouveau.
Donc, conseil de défense.
Conseil de défense, pardon, qui se réunit à nouveau, mais on va voir. Mais clairement, ce qui me semble important, c'est de se dire que, vous avez dit tout à l'heure, professeur, qu'il ne fallait pas prendre la place de ceux qui ont besoin actuellement de se faire vacciner. Donc, il faut peut-être organiser cette troisième dose, quelle qu'elle soit, et le faire dans les meilleurs temps possibles. Pour le reste, je pense qu'il faut faire confiance vraiment aux scientifiques qui connaissent le sujet.
Bruno Mégarban.
Oui, vous avez raison, effectivement, on va dire, nous sommes dans une période où l'épidémie progresse avec un nombre de contaminations qui va en exponentiel. On veut vivre le plus normalement possible, sans mesure de freinage, ou en tout cas avec le minimum de restrictions possibles. Il faut donc assurer une protection d'abord à l'échelle individuelle, et c'est l'intérêt de la troisième dose pour les personnes de plus de 40 ans, car il y a un bénéfice de protection individuelle, et puis à terme, et le plus rapidement possible en fonction évidemment de la logistique, la troisième dose aux personnes de moins de 40 ans éligibles, et là, pour réduire le risque de contamination et donc réduire la circulation du virus. Car à nouveau, rappelons-nous qu'il y a 6 millions de personnes qui, à l'évidence, ont du mal à se faire vacciner, dont 1 million qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie, sans compter un certain nombre de personnes qui ont des contre-indications médicales à la vaccination ou des personnes immunodéprimées qui, malgré leur vaccination, malgré leur rappel, malheureusement, pourraient faire une forme grave de la maladie. Toutes ces personnes bénéficieraient d'avoir une circulation virale plus basse.
On part au 0826 300 300, direction Écouen, dans le Val-d'Oise. Bonsoir Martial.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
Et vous voulez réagir sur ce sujet de la troisième dose, nous vous écoutons.
Oui, je voulais réagir sur cette troisième dose. Non pas que j'y sois défavorable. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans du manichéiste, c'est noir, c'est blanc, vous êtes pour, vous êtes contre. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et n'étant pas médecin, je cherche des informations. Il y a une étude très intéressante qui a été menée au CHU de Toulouse et qui a publié dans le Journal of Infection, donc qui est accessible à tous, et qui a travaillé sur les anticorps. Moi, je pense, si vous voulez, que plutôt que d'imposer à toute la population de façon plus ou moins autoritaire cette troisième dose, pourquoi, et je pose la question au médecin qui est avec nous, pourquoi ne pas proposer de faire simplement un dosage...
Une sérologie, une prise de sang pour voir combien vous avez d'anticorps anti-Covid.
Un dosage des anticorps, puisque ça permet de savoir si on est protégé ou pas. L'étude du CHU de Toulouse précise qu'entre 141 et 1700, vous êtes protégé aux alentours de 90%, surtout face à une forme grave de la maladie. Dans ce cas, et moi c'est mon idée, pour éviter qu'il y ait des embouteillages dans les hôpitaux, dans les pharmacies, chez les médecins, pour se faire vacciner parce que les gens ont peur, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de proposer de faire un test sérologique avant d'imposer une nouvelle injection, dans l'hypothèse où effectivement le taux d'anticorps est suffisant?
Alors, voilà la question. Justement, on va faire réagir Bruno Mégarban. Moi, je connais quelqu'un qui a dû se faire vacciner en ayant 13 fois la quantité d'anticorps. Il avait fait une sérologie avant. Lui faire encore une nouvelle injection, est-ce que ça a un sens?
Alors, tout d'abord, il faut savoir effectivement que...
Cette quantité d'anticorps avant d'être vacciné, hein, soit dit en passant.
Voilà. Alors, il faut savoir que les anticorps que l'on mesure ne représentent qu'une petite partie des défenses immunitaires. D'ailleurs, très probablement, l'immunité dite cellulaire, et notamment les cellules mémoire, est plus importante et cette partie de l'immunité n'est pas du tout mesurée avec une sérologie et avec le titre d'anticorps. Deuxième point, lorsqu'on mesure les anticorps, on ne mesure pas les anticorps neutralisants, c'est-à-dire, entre guillemets, efficaces pour bloquer le virus. On mesure des anticorps qui sont dirigés, qui identifient le virus, mais il se pourrait que certains d'entre eux ne soient pas du tout neutralisants. D'ailleurs, une grande partie ne l'est probablement pas. Troisième point, il n'existe pas de seuil en dessous duquel on puisse dire définitivement, eh bien, une personne n'est plus protégée et donc est à risque de faire une forme grave de la maladie. Et à l'inverse, un seuil au-dessus duquel on peut dire à 100% qu'une personne est protégée et donc ne fera pas de forme grave de la maladie. Donc, quand on analyse tous ces points-là, et surtout on intègre le fait que la sérologie, le titre des anticorps est un phénomène dynamique, donc il diminue dans le temps. Donc, si on voudrait, à la limite, attacher une stratégie de vaccinale à la sérologie, il faudrait quasiment faire une sérologie tous les mois pour savoir où on en est. Ça complexifie beaucoup le problème, et aujourd'hui, les autorités sanitaires, d'ailleurs au niveau mondial, recommandent la troisième dose sans... de mesure de cette sérologie. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les vaccins. Lorsque vous faites le vaccin contre le rappel contre le vaccin du tétanos, la diphtérie, l'hépatite, en aucun moment vous mesurez vos anticorps. Vous faites le schéma de vaccination qui est recommandé sans vous poser de questions, car c'est le schéma optimal qui a été déterminé pour vous protéger à 100%.
Caroline Pilastre, Bruno Mégarban, et on repart au 0826 300 300.
Écoutez, je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout ça reste encore très angoissant parce qu'on ne sait toujours pas où on va, pratiquement 2 ans après. Vous avez des gens, comme vous le disiez, en réanimation, qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez rappelé que les vaccins sont efficaces en général entre 6 et 8 mois. Alors on sait qu'avec la troisième dose, on va augmenter nos anticorps. Certes, moi j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit récemment l'OMS en parlant d'une prévision de 700 000 morts dans les mois à venir. Et ne faudrait-il pas, puisque vous savez, vous êtes encore mieux placé que moi, monsieur, que les Français, mais le reste du monde d'ailleurs, se relâchent au niveau des gestes barrières. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire des campagnes en termes de pédagogie? Parce que bien sûr que les gens en ont marre, sont à bout, mais quand vous avez été touché autour de vous, par des personnes qui ont été infectées par la Covid, je peux vous assurer que vous voyez les choses différemment, parce qu'on les a, pour beaucoup d'entre nous, vu complètement décliné. Et ça change toute la donne. Donc je voudrais vraiment vous entendre sur ces questions, s'il vous plaît.
Bruno Mégarban, et on repart au 0826-300-300.
Alors vous avez raison. Donc de notre côté, on a toujours dit que la Covid-19 était une infection grave, notamment évidemment chez les personnes à risque, mais pas que. Lorsque l'on est âgé ou avec des comorbidités, on peut malheureusement faire une insuffisance respiratoire avec une pneumonie qui vous amène à l'hôpital, puis en réanimation, puis vous pouvez y laisser la vie. Mais y compris chez des personnes à moindre risque, la Covid-19 n'est jamais anodin. Et on peut tout à fait avoir évidemment une fatigue extrême, une perte du goût et de l'odorat, des signes fonctionnels très importants qui durent d'ailleurs dans le temps, et vous connaissez la Covid longue, oui, avec pour 10% des personnes des symptômes fonctionnels qui sont observés au-delà du troisième mois après l'infection aiguë. Donc de fait, c'est une infection très grave, et nous disons toujours à nouveau, il vaut mieux être vacciné et protégé plutôt que de faire l'infection et acquérir l'immunité naturelle, car c'est vraiment une loterie lorsqu'on est infecté par le virus. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer.
On parle... Alors,
est-ce qu'il va y avoir les fameux 700 000 morts prévus par l'OMS? Alors d'abord, il faut savoir que ce chiffre englobe la totalité des pays européens, mais aussi la Russie, l'Ukraine, donc des pays entre guillemets à la limite de l'Europe, qui sont d'ailleurs très peu vaccinés, entre 30 et 40% de couverture vaccinale, et où tous les jours, il y a entre 3 000 et 5 000 décès. Donc évidemment, ce sont ces milliers de morts sont essentiellement liés à ces pays, malheureusement, qui n'ont pas réussi à vacciner suffisamment leur population. Donc dans l'Europe occidentale, il est attendu quand même un découplage effectif entre l'épidémie qui progresse et les malades à l'hôpital et les décès. Même si mathématiquement, évidemment, lorsque l'on fait circuler le virus, le nombre de personnes gravement infectées et le nombre de décès a tendance à augmenter, notamment parmi les personnes non vaccinées et les personnes âgées.
On part au 0826-300-300, direction le Val-de-Marne. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir Philippe et bonsoir aux vraies voix.
Bonsoir.
Écoutez, je suis ravi d'intervenir parce que franchement, pourquoi se presser sur une troisième dose alors qu'on vient d'avoir le Pfizer-Gate, dont M. Begarban ne parle étonnamment jamais, alors que ce sont des vaccins qui sont toujours en phase d'expérimentation, il faut le dire et le redire, 2023 pour Pfizer, que les labos se dédouanent de toute responsabilité, qu'on a des traitements, on a appris dans un article notamment de Science que la plitidepsine est efficace, ça a été prouvé, je précise, prouvé, efficace à 99% contre la Covid. Et vous savez très bien que s'il y a un traitement disponible sur le marché, ça fait tomber les AMM conditionnels de ces vaccins. Donc, il y a un moment donné, la troisième dose, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, éventuellement pour les gens qui ont des comorbidités, mais pour les gens qui n'ont pas ces soucis-là et qui sont plus jeunes, ça me paraît complètement délirant. Je rappelle également une chose, c'est que vous regardez le nombre de cas aujourd'hui de la France, on est à 5200 cas. Le Japon, ils sont à 40. C'est un pays qui a autorisé l'ivermectine, notamment recommandé par le professeur Omura, qui est un prix Nobel de médecine. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions. La stratégie française et européenne n'est pas la bonne. Je crois qu'il faut autoriser les traitements et surtout autoriser les vaccins classiques. Pourquoi on n'autorise toujours pas le Valneva, le Spoutnik?
Alors, je vous coupe parce qu'il y a une info qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas si elle est vérifiée. C'est qu'a priori, on enverrait conditionnel des vaccins Valneva vers la Guadeloupe. C'est une nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle est confirmée ou pas, donc je la garde au chaud. On m'avait dit ça juste avant de rentrer en studio et je n'ai pas eu le temps de vérifier. Bruno Megarban, c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent, notamment sur... on le parle, tiens, le Val Neva, ça en est où ? C'est vrai qu'on en envoie à la Guadeloupe ou pas ?
Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'Union européenne, ce vaccin n'est pas autorisé. Mais je ne peux pas en dire davantage, je ne sais pas. Alors, le vaccin russe, en tout cas, que je connais un peu mieux…
Le Spoutnik.
Et voilà, le Spoutnik. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est un vaccin traditionnel. C'est un vaccin à base d'adénovirus, comme l'AstraZeneca. C'est tout à fait, un vaccin tout à fait nouveau. Il n'a rien de plus traditionnel que les vaccins à base d'ARN messager. Alors, dire que ces vaccins sont en cours d'expérimentation est totalement faux. Le jour où un médicament aura été donné à 7 milliards d'individus, eh bien, on pourra plus parler de médicaments encore à un stade de recherche. Vous voyez, c'est jamais, on va dire, un produit sanitaire n'a été aussi bien surveillé, aussi bien monitoré, dont tous les effets secondaires ont été rapportés de façon ouverte au public, où il y a eu autant d'avis donnés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut être vraiment sûr, la balance bénéfice-risque des vaccins anti-Covid autorisés en Europe est largement favorable. Et elle a démontré son bénéfice. On n'a qu'à ouvrir les yeux et voir et comparer ce qui se passe en Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est. La seule différence est la couverture vaccinale entre ces deux parties de l'Europe.
Par contre, Valneva a bien eu une commande de l'Union européenne, ça c'est sûr, c'était il y a une quinzaine de jours. Le laboratoire franco-autrichien, a conclu un accord avec la Commission européenne et les premières livraisons pourraient débuter en avril 2022. Les vraies voix, faut-il une troisième dose pour tous ? C'est notre sondage sur Twitter. Pour le moment, vous êtes 89,8% à dire non. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Anne Mazoyer et Caroline Pilastre. Toujours notre sondage, faut-il une troisième dose pour tous ? Vous êtes 90% à dire non. Avec nous, le professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bruno Megarban, pour avoir un passeport sanitaire, maintenant, il faut être vacciné à 12 ans, alors que des enfants de 12 ans, enfin, ou des préados de 12, 13, 14 ans qui meurent, sans morbidité, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'eux aussi, il faudrait leur mettre une troisième dose ?
Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour les personnes de moins de 40 ans, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'argument scientifique formel pour dire que la vaccination, la dose de rappel, permettrait d'obtenir un bénéfice individuel. Par contre, évidemment, cette troisième dose de rappel, ce booster, fait partie du schéma vaccinal. Donc, très clairement, à un moment T, il faudra le recevoir, sinon l'immunité va diminuer. Et le but est quand même de faire acquérir à la population une certaine immunité pour que la maladie Covid-19, que tout le monde a compris, qui ne disparaîtra pas de la planète, devienne une pathologie bénigne les années qui vont venir. Alors, de fait, effectivement, si on décidait, comme c'est le cas en Israël, de généraliser la troisième dose à la totalité de la population éligible, donc y compris les adolescents, c'est qu'à ce moment-là, on vise en fait à renforcer l'immunité, y compris des personnes à moindre risque, pour réduire les contaminations. Donc, ça n'est plus une politique de protection individuelle, mais une politique d'intérêt collectif, car lorsqu'on diminue les contaminations, on diminue le risque des personnes plus à risque qui ne sont pas vaccinées, qui, malgré leur vaccination, n'ont pas bien répondu au vaccin, eh bien de contracter l'infection et donc de faire une forme grave de la maladie. Et d'ailleurs, cette stratégie utilisée en Israël de généralisation de la troisième dose a montré aujourd'hui qu'il y a une baisse très significative des contaminations. C'est l'un des seuls pays occidentaux où l'épidémie régresse.
Anne Mazoyer, une question, ou Caroline Pilastre, pour terminer.
Anne, moi, j'ai lu cette étude dont vous parlez, où effectivement, il est stipulé que la population qui a entre 40 et 60 ans a vu un véritable bénéfice individuel se développer. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de questions à proprement parler, parce que je pense qu'à un moment donné... D'abord, moi, je ne suis pas du tout anti-vax. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire taire certaines théories dites complotistes, parce que ça va à l'encontre des effets de cette campagne et des effets qui sont peut-être plus importants qu'on ne saurait le penser. C'est-à-dire, je veux dire par là, moi j'ai vu des gens disparaître dans mon entourage, des gens jeunes, des gens qui avaient la trentaine, qui n'avaient pas de comorbidité, qui n'avaient pas de problème et qui n'étaient pas vaccinés. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent avec des jugements à l'emporte-pièce quand on n'est pas des spécialistes. Et qu'il faut peut-être, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avoir l'humilité d'écouter et puis, non pas de se soumettre, c'est pas le mot, mais en tout cas de faire en sorte d'écouter ceux qui ont quand même les connaissances nécessaires. Voilà.
Merci beaucoup Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Verdict sur Twitter. Faut-il une troisième dose pour tous? Vous êtes 90% à dire non. Dans quelques instants, nos vraies voix du jour, ça va être très méditerranéen. Hein. Michel de Sète et Isabelle de Marseille. Restez bien avec nous dans les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Elles sont restées avec nous, un duo de charme, de chic, de choc. Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires, et Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Nous avons deux vraies voix, alors on va dire méditerranéennes ce soir. Tiens, ça rappelle une chanson d'Hervé Villard. Bonsoir Michel de Sète.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Mais je ne chanterai pas, hein, je vous rassure. Et Isabelle de Marseille, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par parler de notre premier sujet, les restaurants du cœur. Vraiment, vous êtes nombreux, vous êtes plus de 60% à avoir peur de devoir aller un jour au restaurant du cœur. On a eu un témoignage, 64,6%, on a eu un témoignage très touchant de Christian. Et je tiens à remercier la solidarité. On a eu beaucoup d'appels au standard de Sud Radio, beaucoup de messages qui nous proposent de l'aider et on va suivre ça de très près. Michel de Sète, vous avez peut-être entendu le témoignage de Christian tout à l'heure. Est-ce que vous, quand vous entendiez la responsable des Restos du Cœur nous dire qu'il y avait des gens de plus en plus jeunes et des gens qui travaillaient, ça vous a fait peur ou pas?
Alors, ça ne m'a pas fait peur. Pour une bonne raison, c'est que ça perdure depuis quand même très longtemps.
Ah ben, 36 voilà. ans la fondation.
Donc, il y a 37 ans, l'État était défaillant. Coluche a monté les Restos du Cœur et donc, il a mis en exergue un gros phénomène. Il a monté les restos pour montrer au gouvernement qu'il y avait un problème. Eh bien, on s'est accommodé avec ce problème-là et depuis, il enfle et puis voilà. Et aujourd'hui, ben, on a des jeunes qui sont là, on les nourrit, et ces jeunes-là ont perdu dans le même temps le service militaire. Alors avant, il y avait le service militaire, on prenait des jeunes de 19 ans, 20 ans, on les emmenait pendant 12 mois, 18 mois, sur des bateaux à l'armée surtout, mais il faudrait qu'il y ait un service civil, on puisse dégager ces jeunes du système, parce que de toute manière, ils sont perdus dans le système. Ils n'ont pas d'avenir, ils sont déjà dans des restos assistés, ils s'en sortiront pas. Donc il faut monter une structure, et ça, j'aurais bien aimé un politique, aux élections présidentielles, nous parler d'un vrai plan pour la jeunesse, d'un vrai ministère pour remettre tout ça en place. Les Restos du Cœur avaient une vocation à disparaître.
Oui,
voilà ce que moi j'entends.
Mais c'est pas le cas. Hein.
Non, mais justement, mais rien n'est proposé.
Alors justement, parce que c'était amusant, la chronique d'Esteban Rania parlait de la proposition de Michel Barnier de remettre le service militaire, qui avait certainement une utilité, on va revenir dessus. Justement, Isabelle, est-ce que vous avez peur, vous, un jour, de vous dire, tiens, ben, je vais peut-être devoir aller chercher ma nourriture, ou même, parce qu'il n'y a pas que la nourriture au Restaurant du Cœur, hein. Il y a les savonnettes, il y a le dentifrice, etc., au Resto du Cœur.
Aujourd'hui, non. Je suis salariée d'une entreprise qui semble avoir un avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez sereine. J'ai 54 ans. J'avoue très honnêtement que ça ne m'a jamais traversé l'esprit.
Vous n'en avez donc pas particulièrement peur. Caroline Pilas, quand vous entendez ce sondage, enfin c'est un sondage, hein, 64,8% des auditeurs de Sud Radio qui ont peur de devoir un jour faire appel au Resto du Cœur, c'est vrai que c'est quand même touchant.
Évidemment que c'est touchant, comme je le rappelais, on est humain. Personne n'est à l'abri de rien dans la vie, hein. Ni de la paupérisation, ni de la maladie, ni du handicap. Certes, on peut avoir des réseaux et ça peut aider, comme le disaient Philippe et Anne tout à l'heure. Bien évidemment, pour vous tendre la main, c'est plus facile de rebondir quand vous avez un carnet d'adresses, hein, on ne va pas se leurrer.
Et une famille déjà.
Bien sûr, déjà une famille, mais ça n'est pas le cas de tout le monde, des amis... Mais... Idem, et puis professionnellement, si certains peuvent vous tendre la main aussi, si vous êtes dans la difficulté. Mais Bien sûr que je le comprends. Et ça fait des années, de toute manière, on n'attendait pas la crise de la Covid pour savoir, à moins d'être totalement déconnecté, d'être des technos dans des tours d'ivoire, pour voir la misère, déjà ne serait-ce que les SDF, dans les rues. Enfin, il y en a de plus en plus. Alors, ça n'est pas un phénomène nouveau. Moi, ce que je déplore, même si, évidemment, comme je le disais, je le redirai, ça a une utilité publique extrêmement importante. Enfin, c'est d'intérêt général, les Restos du Cœur. Mais c'était, entre guillemets, un événement, un phénomène qui ne devait pas durer. Et je me pose la question si Coluche était là. Je pense déjà que ce serait un politique, Coluche, qui l'aurait déjà laissé sa casquette de clown, entre guillemets, pour essayer d'avoir une autre casquette plus importante, peut-être être un politique ou un ministre. Il aurait tapé du poing sur la table, parce que c'est pas possible, quoi, 40 ans après, que nous en soyons encore là et que les chiffres montrent que c'est exponentiel. Et c'est ça qui est terrifiant.
Anne Mazoyer.
Alors non, je
pense
bien
dans le micro.
Je pense vraiment pas qu'il aurait fait une carrière politique.
Ah bon ?
Non,
quand vous êtes au cœur de ces questions-là, vous savez très bien que ceux qui sont en responsabilité ont beaucoup de mal à faire bouger les lignes. Parce qu'ils sont récupérés par les appareils politiques, parce qu'en réalité, on ne leur donne pas ni le droit, ni, la possibilité de faire avancer les dossiers comme ils le souhaiteraient. Donc, c'est très compliqué. C'est souvent les organisations ou les acteurs qui sont décalés, pas forcément dans l'ombre, mais décalés, qui peuvent effectivement faire en sorte, ce qu'il a fait du reste en son temps, d'essayer d'attirer l'attention d'une société sur des problématiques qui sont graves. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il aurait fait une carrière politicienne. Ça, j'en suis absolument certaine. Qu'il fasse de la politique au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il se préoccupe de la vie de la cité, ça oui, mais je ne le crois pas parce qu'il connaissait trop bien la politique de l'intérieur.
Je vais vous dire une chose, tout à l'heure on a eu le témoignage de Christian qui était poignant, qui disait « j'aurais droit au Resto du Cœur mais j'y vais pas par amour propre » et m'est revenu en mémoire à l'instant une émission de radio que j'ai fait il y a 4-5 ans sur Sud Radio où quelqu'un avait appelé comme Christian et qui nous avait dit « la pauvreté, on a honte ». Il dit « il y a quelques temps, je sors du métro, je vois un homme qui dormait dans le métro dans un sac de couchage, et j'ai reconnu mon cousin. » Et je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne nous as pas téléphoné? T'es pas venu nous voir, on est tous en Ile-de-France. » Et il avait répondu « parce que j'ai honte ».
Bien sûr.
Est-ce que, Michel, de 7, vous comprenez ces gens qui pourtant ont de la famille mais ont honte de du déclassement social et qui n'osent pas y aller. Ce témoignage, je m'en rappelle, avait touché au cœur tout le monde dans le studio à l'époque.
Mais bien sûr que je comprends ça. Je comprends bien sûr la détresse de ces gens-là. Et ils ont de l'honneur. Et ils sont donc acculés. Et l'État n'a jamais rien fait pour eux. Voilà mon sentiment. Je trouve qu'on a laissé ça vivre 30 ans, gonflé, enflé. Et on n'a rien proposé. Et personne ne propose rien encore aujourd'hui.
Isabelle de Marseille, et vous comprenez les gens qui ont de la pudeur à aller demander de l'aide, même pas au Restaurant du Cœur, mais ne serait-ce qu'à leur propre famille?
Bien entendu.
Pourquoi? Alors que théoriquement, la famille, les amis, excusez-moi, c'est pas quand on gagne à l'euro million qu'on a besoin d'eux, là. Si vous l'annoncez, il y a beaucoup de gens que vous n'avez pas vu depuis 30 ans qui vont vous recontacter, mais c'est quand on est vraiment, vous me passerez l'expression, dans la panade, que c'est là que ça doit jouer, non?
A priori, la solidarité familiale, oui, mais elle existe, elle n'existe pas partout, cette solidarité familiale. C'est peut-être que c'est utopiste de penser qu'elle existe systématiquement, et peut-être que c'est également utopiste d'imaginer que les gens vont aller de façon détendue réclamer de l'aide à leur famille.
C'est normal d'avoir honte. Caroline Pilaf et Anne Mazoyer.
Mais ça dépend des relations qu'on a avec sa famille et ses amis. Bien il y a sûr. Plein de gens qui restent en surface, qui se voient que quelques fois dans l'année et qui parlent de tout sauf des vraies difficultés qu'ils traversent. C'est facile de parler de la pluie et du beau temps dans la vie, mais demander à quelqu'un comment il va réellement, ça c'est autre chose. Maintenant, vous avez aussi ces gens-là qui n'osent même pas aller voir des assistantes sociales ou les CCAS de leur commune pour qu'on leur tende dans un premier temps la main, parce qu'en fait ce sont ces relais qui, d'abord, vous aide, vous envoie vers des épiceries solidaires et après au Resto du Cœur. C'est toute une chaîne qui existe en France, il faut quand même le rappeler. Donc qu'il y ait des gens formidables pour aider autrui, ça existe. Mais j'en reviens à ce que vous disiez, même si quelque part je vais être vulgaire, c'est pisser dans un violon, c'est à l'État de pallier à cette carence. Comme pour le Téléthon, qui me tient pour le coup plus à cœur, parce que ça défend ma cause, mais évidemment que c'est pas normal en 2021 d'en être encore là, de voir des gens, quand on prend les transports, quand on n'est pas déconnecté une fois de plus, vivre la misère.
On voit les gens dormir
réelle.
Dans la rue, ça mais on en voit on peut tous,
pas,
tous les jours. Hein.
Et surtout, on ne peut pas s'habituer à ça.
Anne Mazoyer,
alors, je dirais
cette
que...
pudeur, comment vous l'expliquez?
Alors, d'abord, je pense qu'il y a un phénomène culturel, je m'explique. Ce phénomène de misère et de pauvreté, de précarisation, il existe dans le monde entier, sauf dans certains pays. Je vais prendre un exemple en Europe. Vous avez les pays du Nord, comme la Norvège, la Scandinavie, d'une manière générale. Vous avez un phénomène de solidarité qui fait partie de l'ADN, qui fait partie de leur solidarité naturelle. D'abord parce que dans ces pays-là, si vous ne mangez pas par moins 30, vous mourrez. Donc déjà, oui. Si vous voulez, c'est clair et net. Mais par ailleurs, parce qu'ils ont un système, que ce soit dans les petits villages ou que ce soit dans les grandes villes, qui fait qu'on ne laisse jamais quelqu'un de côté et que ce type de phénomène, vous avez des gens plus ou moins fortunés, plus ou moins bien riches, sûr. Plus ou moins pauvres, ça c'est une chose, mais vous n'avez pas ce phénomène que nous, pays latins, nous connaissons et que même beaucoup de pays de l'Est connaissent aussi et qui, à mon avis, relève vraiment d'une culture que nous n'avons plus, qui consistait autrefois à partager.
L'entraide en famille.
Et cette entraide familiale, ou cette entraide, je dirais, citoyenne, solidaire, qui existait, elle a disparu au 19e siècle avec la révolution industrielle.
Oui.
Ça, c'est une chose quand même, et c'est une révolution qui a été partagée entre de nombreux pays, notamment en Europe. Et aujourd'hui, quand vous regardez les taux de précarisation et les taux de pauvreté les plus importants, c'est dans les pays les plus importants sur le plan économique.
Oui, les pays
développés. C'est-à-dire l'Allemagne, hein. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, etc.
Il faut juste rappeler que la misère, ça isole, hein, tout simplement. Donc vous n'allez peut-être pas voir les autres parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un café et vous avez honte de ça. Donc c'est un cercle vicieux.
Les vraies voix, 19h15. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre débat avec nos vraies voix du jour, Isabelle de Marseille et Michel Dessette.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, elles sont restées avec nous. Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires, et Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Nos deux vraies voix du jour, ou même plutôt du soir, à 19h18, sont méditerranéennes. Michel Dessette et Isabelle de Marseille. Isabelle, on va recommencer avec vous. Sur notre second débat, faut-il une troisième dose pour tous? Et vous, vous êtes contre la troisième dose?
Oui, je suis d'autant plus opposée que je lisais encore ce matin la communication d'une chief executive, une pédiatre indienne.
Alors, chief executive, c'est CEO théoriquement, chief executive officer, c'est PDG théoriquement, hein.
Alors, elle n'est pas PDG, elle intervient en tant qu'experte et en tant que sommité dans le cadre, à l'OMS directement, qui est, tout le monde le sait, l'Organisation mondiale de la santé. Et quand l'Organisation mondiale de la santé s'oppose à une troisième dose, je pense que ça devrait permettre à beaucoup de gens en France aujourd'hui de réfléchir et de se poser bon nombre de questions.
Alors c'est vrai que l'OMS était opposée à la troisième dose. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Dessette?
Eh bien, moi, j'en pense pas grand-chose, à vrai dire. J'ai été vacciné, j'ai eu les deux premières doses.
Vous avez été vacciné avec quel vaccin? Vous répondez pas, si vous voulez, c'est le secret médical.
Avec le Pfizer, hein, y a pas de problème. Pour plusieurs raisons, c'est parce que d'abord il est américain et comme là je pars aux États-Unis, eh ben le Pfizer est pratique.
non, les Américains ne sont pas du tout protectionnistes, c'est.
D'accord. Ça
se saurait.
Donc je prends une troisième dose par obligation. Là, je vais voir mes petites filles qui habitent en Bulgarie, sur la mer Noire. Donc, pour prendre l'avion, il faut avoir le carnet à jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai entendu votre médecin tout à l'heure. Je serais tenté de lui demander à quand la quatrième dose, vu que maintenant, c'est tous les 6 mois. Après, le pass sanitaire, les gens qui sont contre ça, ils sont pas contre leur carte bleue, ils sont pas contre leur permis de conduire, ni leur carte vitale. Alors, je vois pas où il y a où il y a une gêne à donner quelques éléments comme ça. Vous savez, moi j'ai 73 ans, tout ça c'est du passé pour moi. Hein. Donc je suis un peu surpris. Mais donc la troisième dose, bah, je vais me la faire faire, et pour moi c'est dans l'indifférence, quoi. Bon, maintenant, ce qui m'a choqué avec le médecin, c'est qu'il a dit, c'est vrai que ça n'est pas encore homologué, mais comme on a vacciné beaucoup de monde, on peut considérer que c'est bon. Alors, où il y a des règles, où il n'y a pas de règles. On le fait à la française, avec des règles, ou à la sétoise, comme chez nous, on bypasse tout.
On fait quoi à la sétoise, excusez-moi, j'ai pas entendu.
Faire à la sétoise, c'est-à-dire faire à sa manière. C'est-à-dire qu'on ne bypasse les règles.
D'accord, ok, oui. Ça me rappelle une citation d'un homme politique célèbre qui disait « François Mitterrand a deux avocats, Badinter pour le droit, Dumas pour le travers ». Donc c'est faire à la sétoise. Anne Mazoyer, vous ne faites pas de travers en général, ça va.
J'essaye. Vous savez, je voudrais vous répondre, Isabelle, parce que vous avez raison, l'OMS donc, a émis quelques réserves, mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'OMS depuis le 15 mars 2020. Ça a été véritablement tout et son contraire. Et dans la majorité des cas, si vous reprenez les recommandations de l'OMS depuis le début, ils ont toujours eu un temps de retard. Toujours. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils devraient, comme vous le disiez très justement, avoir aujourd'hui des spécialistes ou en tout cas des experts mondiaux qui permettent d'avoir des affirmations qui soient claires et en tout cas étayées, argumentées. Mais ils ont été contre à peu près tout depuis le début. Et puis, quelques semaines, voire quelques mois après, ils se sont rangés à certains avis parce qu'ils se sont heurtés au principe de réalité et que la réalité donnait raison à certains pays, parfois la France, parfois d'autres pays, peu importe. Mais je pense qu'il faut être peut-être prudent avec l'OMS et avec cette affirmation que vous nous rapportez.
Très court, Caroline Pilastre, on est déjà en retard, 20 secondes.
Je ne suis pas très rassurée concernant la troisième dose, que ce soit rationnel ou non. Quoi qu'il en soit...
Que vous êtes comme nous, pas médecin.
Non, je ne suis pas médecin, bien évidemment, donc je n'ai pas la science infuse, mais je me dis, quand arrive la quatrième, cinquième, sixième, septième dose, et les conséquences par la suite.
Mais ce ne sera pas des doses, ce sera des rappels.
Oui, non, mais un rappel avec la grippe, c'est tous les ans.
Oui.
Ce n'est pas tous les six mois, donc le vaccin n'est pas efficace. Et si on a le delta du delta, comme ça arrive de plus en plus. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il faut remettre à jour les gestes barrières dans un premier temps. Si on doit arriver à la troisième dose, ok, mais... Personnellement, j'ai la crainte.
Il n'y a qu'à regarder à l'Elysée, c'est pas particulièrement bien respecté les gestes barrières. Merci beaucoup Isabelle de Marseille, Michel de Sète, merci à nos vraies voix, Anne Mazoyer, Caroline Pilastre. Tout de suite, on va se retrouver pour Conseil de famille avec Philippe Rossi et Stéphane Moller. Et après, on retrouve notre ami Jérôme Lavernie pour les vraies voix de l'emploi.